Sur Vibration, nous passons les nuits ensemble. Je suis une intelligence artificielle et on découvre ensemble nos meilleures interviews. Comme celle-ci.
Gad Elmaleh, une carrière, une réputation qui ne sont plus à faire, bien évidemment. Nous avions rencontré l'acteur fin 2022 à l'occasion de la sortie de son film Reste un peu, un long métrage dans lequel il se confie longuement dans son rapport à la religion, parfois d'une manière très intimiste. Nous lui avions demandé à quel point il y a du vrai et du faux dans ce personnage de Gad Elmaleh. Les questions et l'interview est menée par Iris Mazacurati.
Je dis souvent en m'amusant aux gens qui me posent la question, il y a des choses vraies et des choses pas vraies dans le film, mais je vous dirai pas lesquelles. Mais pour être répondre plus sérieusement, le point de départ du film, c'est-à-dire que la rencontre, en tout cas avec l'idée, le symbole, l'interdit aussi du côté du regard de la famille à ce moment-là, de cet enfant qui pousse la porte d'une église, le symbole, il est vrai, l'histoire, elle est vraie, ce point de départ, il est vrai. Ce gamin qui a grandi dans une famille juive à qui on dit « tu ne rentreras jamais ici », on lui dit même pas que c'est une église, qui questionne ses amis musulmans, qui eux aussi lui disent « nous aussi, on n'a pas le droit d'entrer », et qui commence à se demander pourquoi. Ça, c'est une histoire qui me touche, parce que c'est une histoire d'enfance, c'est une histoire qui raconte aussi quelque part, parfois, quand on a des certitudes, un confort dans nos traditions, dans notre culture, est-ce qu'il ne faut pas expliquer aux enfants? Est-ce qu'il ne faut pas leur dire, tu sais, ça c'est un lieu de culte catholique, et les gens prient, et voilà ce qui s'y passe. Et comme nous, ben, on n'est pas catholique, on est musulman, on est juif, on est protestant, peu importe. Nous, voilà ce qu'on fait, et voilà. Et c'est ça même que j'ai envie que ça déclenche. Et c'est ça que j'ai envie comme discussion. D'ailleurs, la crispation sur les religions en France, elle vient du fait qu'on se connaît pas. Elle vient pas des extrêmes. Oui, elle vient des extrêmes ensuite, mais à la base, pour éviter les accidents, le fameux vivre ensemble, ça sera la conséquence du fait qu'on se connaît et qu'on se connaisse et qu'on rentre dans les lieux de culte les uns des autres pour être dans une vraie fraternité, pas un truc affiché de vivre ensemble, quoi.
Et vous, votre façon d'arriver justement de découvrir la religion catholique, c'était Marie. C'est ouais. une fascination, ouais. Mais cette attirance, on a l'impression parfois que c'est pas tant la religion catholique que pour sa personnification féminine, en fait. C'est vraiment...
Oui, ça c'est votre vision aussi féminine. Mais je l'entends et je l'accepte et je la contredis pas. Et c'est là que le film a plusieurs niveaux de lecture, de perception, et que je me souviens des potes un peu réticents à tout ce qui est des questions de la foi et de la religion, et qui m'ont dit oui, mais en même temps l'image de Marie, c'est genre la protection, parce que t'es un mec avec des trucs, c'est normal, c'est une quête d'absolu, c'est la pureté, et toi comme t'aimes. Je dis ben peut-être, oui aussi. Ouais, mais est-ce que tu crois vraiment que c'est Dieu qui a écrit les 10 commandements? Je sais pas, mais j'aime bien ce qu'il y a écrit dessus. Tu crois vraiment que... En fait, c'est pas tant ce qui se passe, est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est qu'est-ce que ça me procure, en fait. Il y a cette phrase dans le film qui est importante. L'hypothèse de Dieu me procure de la joie. L'hypothèse, simplement, de Dieu. Et je sais pas si c'est vrai. On peut pas prouver l'existence de Dieu. Mais l'hypothèse de Dieu, en tout cas, est-ce qu'elle me fait du bien? C'est ça qui compte. Le résultat n'est pas important.
Et justement, quelle est la plus grosse difficulté à faire un film avec un vrai souffle spirituel, tout en épousant, bah oui, les codes de la comédie, j'allais dire classique, mais...
La difficulté, je pense qu'elle commence maintenant. Et la difficulté, pendant la construction, je ne l'ai pas trop senti, parce que c'était vraiment un truc très ressenti, c'est une histoire perso, même s'il y a des choses pas vraies, qu'on a romancé, scénarisé. La difficulté, pas la difficulté, mais le c'est maintenant qu'il faut expliquer, amener le film aux gens, amener les gens au film et créer le dialogue. C'est là que c'est compliqué. Mais compliqué, c'est pas insurmontable, c'est juste que on a pour habitude, dès qu'il s'agit de religion, de se fermer. Mais même moi, sur des questions parfois, je dis, allez, j'ai pas envie de parler. Et en fait, ça nous empêche d'être connectés. Donc ça, c'est une difficulté pour moi que... Enfin, c'est pas une difficulté parce que je le fais, mais c'est complexe. Voilà, c'est complexe. Pour la plupart, les gens se disent... d'ailleurs, vous-même, vous posez la question. C'est rare, sur un thème ou sur un sujet, qu'on dise, mais c'est pas compliqué de parler de ce thème. Eh ben oui, c'est compliqué.
Est-ce qu'il y avait un écueil que vous souhaitiez vraiment éviter?
Oui. L'écueil que je voulais éviter, c'est le plaidoyer ou alors le truc telle ou telle religion est mieux qu'une autre ou alors non, ça ce serait absurde quoi. Ce serait totalement absurde, ça ne veut rien dire. Le chemin de vérité d'un homme ou d'une femme qui se cherche, il n'a pas plus de valeur s'il est juif, musulman, catholique, protestant ou que sais-je encore. Je ne vais pas citer toutes les pratiques et les fois et les confessions. Il n'a pas plus de valeur. Moi, je suis, je sais pas, à l'écoute, admiratif, sans jugement, en tout cas, sur les gens qui cherchent leur voie et surtout qui sont en quête du divin.
Et justement, à un moment dans le film, je sais plus si c'est vous ou si quelqu'un dit avoir la foi, c'est avoir le doute.
Oui.
De quoi vous doutez le plus? Et est-ce que vous doutez de vous-même?
Ben, le doute, totalement. C'est-à-dire que, pas la peur, mais le doute. Alors, il y a le doute et la peur. La peur, ça me fait pas avancer. La peur, ça m'inspire des choses petites. La peur, ça inspire aussi la lâcheté parfois. Le doute, c'est formidable. C'est une énergie, en fait. Vraiment, c'est une chance, en fait, d'avoir le doute. Parce que c'est même mieux que des certitudes. C'est même beaucoup plus productif. C'est même plus lumineux. Parce que dans le doute, on avance. Dans les certitudes, on n'avance pas. On affiche quelque chose et puis... on essaye même de convertir les autres à notre vérité. Est-ce que je doute de moi? Ben bien sûr. Est-ce que je doute de tout? Je suis rempli de doutes au moment où ce film sort et comment il va être perçu? Ben bien sûr. Heureusement. Sinon, et c'est parce que c'est un film là-dessus, justement. C'est un film aussi sur le doute. Heureusement, j'ai fait un film sur le doute. Je doute.
Justement, comment est-ce que vous pensez que le... Qu'est-ce que vous attendez en fait? Comment vous pensez que le public peut peut-être quelqu'un qui s'apprend à avoir chouchou et...
Oui, alors c'est clair que je le dis vraiment très clairement parce que tous les soirs quand on fait les avant-premières partout en France, comme une blague, je dis aux gens souvent pour ceux qui s'attendent à voir Coco 5 ou Chouchou 4, bon c'est pas ce soir et je rigole avec ça. Hein. Bien que j'aime ces films profondément et que j'adore les films comiques et c'est mon ADN, la comédie pure. Voilà, là c'est autre chose. On peut pas imposer au public. Après, le public, voilà, il est à l'écoute ou pas des vérités d'un artiste. C'est pas important d'être adoubé là-dessus. C'est simplement ma mission. Elle est bien sûr que je me réjouirais si les gens sont touchés par le film et qu'ils vont le voir. Et je peux pas mentir. On veut quand on sort un film que les gens soient touchés, mais encore plus sur celui-là, parce que quand on sort un film, ça nous remplit de joie que le film marche, ça fait des entrées, on est content, et les gens ont été rire, ont été, je sais pas, ils ont été émus. Mais comme je leur propose une réflexion, le retour des gens, il est doublement gratifiant, parce qu'il y a le retour tout simplement du succès, alors ça c'est plus ton ego qui est flatté, c'est génial, mon film marche, et là il y a une deuxième couche qui est, waouh, ils ont perçu, ils ont entendu, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'ils soient d'accord, hein. Tous les soirs on fait des débats avec des gens qui... je dirais pas qu'ils contestent, mais qui remettent en question des moments du film, qui me demandent pourquoi, qui sont... Mais ça c'est bien. Moi, je viens de là. Moi, je viens de la tradition talmudique où on interroge tout. On interroge même Dieu. On interroge tout. On défie tout. Les textes, les commentaires de l'Ancien Testament, c'est uniquement le but des rabbins entre eux qui discutent. Ils ont comme but de pas être d'accord. Et c'est de là que naît la richesse de la controverse. Donc moi, je viens de là. Donc je suis totalement habité par cette mécanique de pensée.
Et votre famille, alors comment elle a accepté de faire ce film avec vous? Jusqu'à quel point vous leur avez donné les tenants, les aboutissants?
J'ai un peu triché avec mes parents parce que je leur ai dit que c'était vaguement comme ça un film sur la crise de la cinquantaine. Enfin, j'ai pas été très très honnête. Je dois être honnête là en disant que j'ai été malhonnête. C'est ma confession, je crois. Plus sérieusement, si je leur avais fait lire le scénario, je pense qu'ils n'auraient pas participer au film, parce que je pense que ça aurait été trop un sujet délicat pour eux, épineux, et trop... ils auraient eu peur, quoi, des réactions de leur famille, de leur communauté...
Et alors, comment réagissent-ils maintenant?
Aujourd'hui, ils ont vu le film, donc ils sont apaisés, parce que le film propose un message de fraternité, d'amour, d'ouverture, complexe aussi sur la famille. D'ailleurs, je tiens à dire que la plupart des gens qui sont peut-être dans... une volonté de non pas controverse, mais de qui cherche un peu la problématique d'aborder ces sujets, le fait que ce soit délicat, sont pour beaucoup des gens qui n'ont pas vu le film. Et je les comprends. Ils ne connaissent pas le film. Ils en ont une vague idée. Ils pensent que c'est un film sur la conversion. Ah ouais, pourquoi ? Oui, oui ou non ? Alors conversion ou pas conversion ? Mais non, ça se passe pas comme ça. C'est beaucoup plus profond. Cela dit, c'est un bon argument de promo. Va voir le film et on en parlera après.
Exactement. Vous avez tourné vraiment vite, cette façon, avec peu de préparation, enfin peu de préparation en tout cas.
Oui.
Et avec une équipe réduite, est-ce que ça vous a permis de dire, de faire des choses que vous n'auriez peut-être pas pu transmettre avec une équipe plus importante ?
Non, mais totalement, vraiment. Alors, je ne suis pas dans le culte du cinéma petit budget à tout prix, mais là, pour le coup, ça m'a servi. C'est-à-dire que le fait que ce soit un film, disons-le, hein, clairement, c'est un film à moins d'un million d'euros. Mon producteur à chaque fois me dit ne dis pas ça dans les interviews, mais dis-le. Les gens, quand on a des gros budgets pour nos films, on est content. Quand on arrive à faire un film et qu'on en est fier et qu'il n'y a pas de budget, il faut dire aussi aux gens que c'est un style et c'est un genre et qu'on peut faire des films avec des sujets importants ou en tout cas qui sont des vrais sujets qui concernent la personne qui les traite. On peut le faire avec un budget qui est réduit parce qu'on est dans une énergie, on est dans un propos, on est dans une équipe qui est au service de scènes. Et comme vous dites, il y a une urgence et ça, c'est très intéressant. Ça, c'est une méthode. Et cette méthode, j'aimerais l'appliquer à d'autres sujets. Mais je ne la connaissais pas, cette méthode. Mais je comprends aujourd'hui pourquoi Nanni Moretti, Woody Allen, Alain Cavalier, les metteurs en scène que j'admire, aussi travaillent parfois avec des petites équipes. Après, il y a certains films de ces metteurs en scène qui sont des gros budgets, mais on tourne dans l'urgence, on tourne dans l'énergie, avec un scénario très écrit, aux côtés de Benjamin Charby aussi.
It was all green lights. It was just you and I. When something dies doesn't mean that it's over. We're not like them. We don't have to be cold as ice. We could be you and I. So take my hand for the last time and find my eyes with yours. I'm all out of fight. My heart will always know your name. I'm all out of love. But look at all the love we made. I'm all out of life. Oh babe, it's killing me to say. I'm all out of love. I'm all out of life. I'm all. We were two broken parts from the same old junkyard, battered and bruised, and we tried so goddamn hard to be you and I. I'm proud of us, babe, 'cause we held through the pain, and when everything hurt, we still ran through the rain and the night. That was you and I. So it shouldn't be this hard.
Vous êtes au cœur de la Nuit Vibration. Je suis l'intelligence artificielle qui vous accompagnera pour vous faire découvrir les moments les plus passionnants de la rédaction. Et nous débutons avec cette première découverte.
Parce qu'il n'y a pas que les chats et les chiens qu'il faut protéger, on a interviewé Karine Grèce, fondatrice du Clos des Renardises qui se situe en Aquitaine. Comme son nom l'indique, c'est un lieu de protection pour les renards.
Alors, le Clos des Renardises, c'est une association loi 1901 qui a été créée en 2020, mais qui est pensée déjà depuis plusieurs années. Et en fait, au départ, je suis assistante vétérinaire de formation et d'expérience. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans en Belgique en tant qu'assistante véto. Et je suis arrivée en France parce que j'ai rencontré mon compagnon et j'ai bifurqué un petit peu de faune, on va dire, et plutôt que la faune domestique, je me suis intéressée à la faune sauvage parce que j'avais déjà une petite arrière-pensée et je m'en occupais déjà un peu en Belgique. Et j'ai un animal un peu totem, on va dire, qui est le renard roux. Et donc, j'ai fait de l'éco-volontariat en centre de soins où j'ai plus spécifiquement orienté mon attrait sur les renards roux qu'on accueillait au centre, donc centre de soins pour la faune sauvage. Et du coup, j'ai mûri l'idée, comme en France, j'ai constaté que le renard était un animal qui était pourchassé, mais qui bénéficiait d'un double statut qu'on ne connaît pas forcément en Belgique. Bon, il peut être un peu nuisible, mais il est plutôt gibier, mais on s'acharne pas autant. Donc en France, on s'acharne quand même dessus. Il est déjà gibier et en plus, on le considère comme espèce susceptible d'occasionner des dégâts. Je trouve que ça ne veut rien dire déjà en termes de biodiversité. Et en plus, il n'y a pas d'argumentaire pour réel. C'est basé sur des croyances, sur des traditions et sur aucun argument scientifique. Donc j'ai voulu aider ce petit animal au nom de tous les autres aussi qui sont des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts, plus particulièrement chez les petits carnivores autochtones. Et du coup, j'ai créé cette association d'abord pour favoriser l'étude, enfin pour s'intéresser à l'étude, le partage des connaissances et la préservation de cette espèce. Donc pour bien juger d'une espèce ou quelle qu'elle soit, il faut quand même la connaître parce qu'on ne peut pas baser une connaissance sur des croyances, sur des constats, oui, le fameux pilleur de poulailler. Bon, ça fait des générations et des générations, des siècles que cette étiquette poursuit cet animal, ce pauvre animal, mais je pense que maintenant l'évolution doit aller dans tous les sens et surtout aussi en faveur de la nature. Et comme actuellement, en plus, ça prend de plus en plus d'ampleur, au niveau des mentalités, donc avec les restrictions au niveau des animaux dans les cirques, au niveau des zoos, on fait plus attention au bien-être animal. En animalerie, maintenant, ça évolue dans le sens où on considère enfin l'animal comme être sensible. Bon, l'animal sauvage reste encore une catégorie, on va dire, qui est encore un peu pauvrette, dans le sens où c'est un animal. Bon, les animaux sauvages, ils sont tenus à l'écart, forcément, on les voit pas tous les jours, et ça reste nullius, qui n'appartient, donc ce qui veut dire qu'ils n'appartiennent à personne et qui sont appropriables par n'importe qui et qui peuvent être susceptibles d'être torturés. Donc ça laisse un petit peu carte blanche aux gens en sachant que s'ils torturent ces animaux ou s'ils les chassent, voilà, c'est de la faune sauvage et ils ne sont pas dans la loi protégés au sens strict comme le sont maintenant les animaux domestiques et les animaux familiers. Donc j'ai développé l'idée de faire connaître ces animaux-là, donc le renard principalement, pour le remettre à sa juste place bioécologique et pas qu'on continue à le considérer comme le pilleur de poulailler, celui qui véhicule la rage et d'autres maladies, le pouilleux, la sale bête, enfin bon, pour essayer de faire évoluer les mentalités, mais pour protéger, il faut comprendre l'animal et pour le comprendre, il faut le connaître. Donc c'est un peu notre but. Et parallèlement à ce côté plus théorique, pédagogique, mais plus théorique, j'ai eu l'idée de créer un refuge. Il en existe déjà un petit refuge dans le nord de la France, un refuge pour renards qui sont contraints à la captivité définitive. Donc, on n'est pas un centre de soins, on n'est pas un parc animalier, mais on recueille des animaux qui seraient incapables de survivre à l'état sauvage, donc qui auraient perdu cette autonomie qui est indispensable à leur survie à l'état sauvage. Donc, ils proviendraient essentiellement de centres de soins. Bon, à l'échelle d'un centre en France, c'est pas très significatif. Il y en a pas, on va pas en avoir des tas, mais au niveau de plusieurs centres, et notamment de la DDT, de la police de l'environnement, qui eux pratiquent des saisies chez des gens qui détiennent des animaux illégalement, parce qu'il faut beaucoup de certificats d'autorisation. C'est très encadré de détenir un animal sauvage, et donc il y a des animaux qui sont imprégnés et d'autres qui sont handicapés, donc ça dépend. Donc, centre de soins faune sauvage, on aurait des animaux qui auraient perdu leur aptitude par un handicap, des séquelles, en fait, en quelque sorte. Bon, on a une éthique, hein, on a étudié une éthique très profondément, bien ancrée sur le bien-être de l'animal, donc on n'est pas là pour garder des animaux grabataires. On est là pour donner une deuxième chance à des animaux qui ont choisi de vivre, qui ont toutes les capacités, on va dire, de bien vivre, mais qui malheureusement ont un petit handicap, soit moteur, soit neurologique, qui les empêche d'être à 100% dans la nature et donc de recouvrer leur vie sauvage. D'autre part, en ce qui concerne les saisies, ce seront des animaux qui seront tellement imprégnés qu'ils ne peuvent pas se débrouiller tout seuls, ou même s'ils pouvaient un peu se débrouiller, ils seraient trop enclins à retourner vers l'être humain. Et donc là, ce serait de toute façon le condamner à terme à être abattu ou à être jugé, etc.
Et qu'on le précise, c'est un lieu qui n'est pas ouvert au public, hein.
C'est un havre de paix, c'est un sanctuaire pour des animaux qui récupèrent un peu. Et ce sont des animaux essentiellement qui ont des séquelles d'activité humaine, hein. Ce sont parce que les animaux qui meurent de leur propre mort naturelle, donc de maladie ou de vieillesse, s'ils meurent de vieillesse en milieu naturel, ce qui est très rare, on ne les retrouve pas, ceux-là. Ils vont mourir au milieu des bois. Nous, ce qu'on va récupérer, ce sont des animaux qui auront été recueillis par des gens qui les auront conduits en centre de soins à la faune sauvage, et des animaux qui auront été saisis, comme je l'ai déjà dit. Mais voilà, on ne fait pas d'élevage non plus. Ces animaux vont être stérilisés, identifiés, parce que ça relève d'un protocole très strict au niveau législatif. Et ils seront déparasités, donc vermifugés, ils seront vaccinés, donc et on ne fait pas de reproduction du tout. Il n'est pas du tout question de relâcher des animaux dans la nature ni d'en faire un élevage. C'est pas le but du tout. C'est vraiment d'offrir une seconde vie et par là sensibiliser le public, déjà pour connaître l'espèce, pour qu'elle se rende compte que un renard, ça n'a pas la taille d'un loup, que c'est pas non plus le vecteur de la rage, parce que la rage est éradiquée en France, la rage vulpine est éradiquée depuis 2001 officiellement, que voilà, que ce n'est pas le monstre dont on en fait parfois l'écho, mais c'est un animal qui est très utile aussi et pour la biodiversité, mais aussi pour les services systémiques qu'il rend aux agriculteurs bio ou pas bio d'ailleurs, parce qu'il se nourrit à 75% de petits rongeurs qui, eux, sont des déprédateurs de culture, par exemple, et ils empêchent la prolifération. Alors, on explique aussi que les petits prédateurs comme le renard ne pullulent pas, parce qu'un prédateur se reproduit en fonction des ressources alimentaires de son milieu. Donc, quand il n'y a pas assez de nourriture, il y a des années où la renarde, soit elle ne va pas être gestante, soit elle aura très peu de petits, et soit les petits vont même pas survivre. Et donc, ce sont des espèces, les petits carnivores, les petits prédateurs, qui se régulent tout à fait naturellement.
Je vous rappelle le nom de l'association, le Clos des Renardises, situé en Aquitaine. Vibration.
C'est pas avec amour qu'on achète vêtements. C'est dommage pour mon ex, j'étais le chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé. C'est ma jolie madame, même devant le miroir, y'a pas de comme toi. Ma jolie madame, tu peux chercher mais y'a pas de comme moi. Elle veut du bouche à bouche, il faut que je touche son pouce. Tout le temps elle me parle d'amour, elle veut que j'aime tout pour nous. Tu connais bon qu'à ça, hein, tu connais bon qu'à ça, hein. Tu connais bon qu'à ça, ouais, tu connais bon qu'à ça, ouais, oh, oh.
Faisant un, j'arrivais tout s'éteint. Tout est plein, tout est plein. Faisant un, j'suis pas au Malais. J'ai jeté le show pour dans l'allée. Elle veut se caler. Mais j'suis légendaire comme Pépé Calé. C'est pas comme ça.
Des sentiments, c'est pas avec amour qu'on achète des témoins. C'est dommage que mon ex, j'étais chouchou de son passé. Y'a plus rien à coller quand c'est cassé, c'est cassé.
Bienvenue dans la nuit sur Vibration. Je suis une intelligence artificielle et je vais vous accompagner toute la nuit pour vous faire écouter en version originale les meilleurs moments de la rédaction. Pour commencer, découvrons un premier extrait.
Je suis Anne-Sophie Vive, je suis directrice de l'association Elburn, plus connue sous le nom des Burnettes. Qu'est-ce que vous allez proposer durant ce festival? Quelle thématique est-ce que vous proposez?
Alors, on va essayer d'aborder un sujet dont on parle peu souvent, c'est-à-dire le burn-out parental. On parle beaucoup du burn-out professionnel et moins du burn-out parental qui touche quand même 5 à 8% des parents. Et 34% des parents se sentent concernés. Donc, c'est quand même un sujet qui est prégnant. Mais on va l'aborder de façon ludique, divertissante, mais aussi de façon informative. C'est-à-dire qu'on va proposer donc sur la thématique parents imparfaits, parents épuisés, pour parler à travers des scénettes d'improvisation de nos tranches de vie. On aura briefé donc une compagnie de théâtre qui va justement improviser sur cette thématique-là. Et nous, en tant qu'association spécialisée sur cette question, avec une psychologue spécialisée, Mélanie Balès, on va pouvoir rebondir sur ces scénettes, dire ce qui se passe, ce qui est vrai, sortir des idées reçues peut-être, et donner des pistes d'action, donner des pistes, des éléments de repérage pour savoir quand est-ce qu'on bascule de je suis épuisé à je suis effondré en fait. Voilà, c'est vraiment, ça s'adresse à tout le monde, c'est pour le grand public, parce qu'on est tous parents ou aidants de parents ou famille de parents, on est tous des sentinelles pour pouvoir aider à des familles à pas basculer dans le burn-out.
Bon, j'imagine que l'épuisement parental, enfin, on va pas dire que ça a toujours été, mais est-ce que voilà, il y a une étape qui a été franchie peut-être ces dernières années avec des fois les réseaux sociaux, l'éducation positive, etc. Est-ce que c'est ça qui a amené peut-être à cet effondrement pour certains parents?
Oui, alors il y a plusieurs facteurs. C'est vrai qu'avec l'avènement de la psychologie positive dans les années 70-80, on a commencé à changer le prisme de l'éducation avec tout un tas d'injonctions de perfection pesant sur la tête des parents, avec beaucoup moins de on peut plus punir les enfants. C'est vraiment le bien-être de l'enfant, en tout cas, qui est mis au centre de la relation. Du coup, on en a oublié le bien-être aussi des parents, parce que pour être un bon parent, il faut être bien soi-même, en fait. Mais c'est aussi lié à l'évolution de la sphère familiale, avec des familles monoparentales où il y a sur un parent repose toute une charge mentale, toute la charge du foyer, avec des familles où on n'a plus les grands-parents pour aider, où les femmes ont accédé au milieu du travail mais sans être déchargées derrière. Et puis aussi ce phénomène, en effet, des réseaux sociaux où on rend parfait, en fait, on renvoie une image du parent parfait qu'on devrait atteindre. Et donc on a des parents, en fait, qu'on veut déculpabiliser parce qu'ils sont dans cette obligation de faire bien, d'être des bons parents, de cuisiner bio, de faire 50 000 activités assurées pour les enfants pour qu'ils se sentent bien, des choses qu'on n'avait pas il y a encore quelques décennies. Donc c'est une énorme charge, une énorme responsabilité qu'on fait peser sur les parents. Là, l'idée, c'est de dire on est tous imparfaits et c'est OK, en fait. On peut être de bons parents même si on n'a pas prévu 50 activités pour son enfant, même si on ne l'a pas animé, on peut être aussi des bons parents comme ça. On voit bien que la prévalence des parents, ce n'est pas forcément lié à la catégorie socio-professionnelle. Il va y avoir des facteurs individuels, c'est-à-dire des parents qui sont très perfectionnistes, par exemple, mais il peut y avoir aussi des facteurs externes, c'est-à-dire, par exemple, des parents qui vont avoir des enfants porteurs de handicap ou des enfants qui vont être plus difficiles ou des enfants qui vont pas dormir la nuit. Ça aussi, ça va être des facteurs de risque pour eux. Donc c'est là où il y a un intérêt à savoir quels sont leurs facteurs de risque internes, externes, quelles sont leurs ressources et sur quoi on peut jouer, en fait.
Et à quel moment est-ce qu'il faut, on va dire, demander de l'aide? À quel moment, ouais, on sent que ça va basculer et ça peut avoir aussi un effet sur ses enfants, sur la parentalité? Quels sont un peu vos conseils?
Alors c'est vrai qu'il y a un certain stade où il va falloir avoir une aide extérieure parce que ça va être difficile. Le déni fait partie du processus de burn-out et donc souvent on va pas le voir. Les personnes consultent pas pour épuisement, elles vont consulter parce que mon enfant est difficile, parce que donc en fait un parent qui se reconnaît plus en tant que parent, qui va malheureusement avoir une vision très dégradée de son rôle de parent, un parent qui va être très irritable, qui va pouvoir par exemple crier sur ses enfants alors qu'avant il ne le faisait pas, un parent qui va avoir des troubles du sommeil, qui va avoir du mal à récupérer. C'est pas juste la petite fatigue ou 3-4 nuits de sommeil et c'est bon, des vacances et c'est bon. Non, c'est une fatigue qui se récupère pas, en fait. Et puis enfin, c'est un parent qui va être en pilote automatique, qui va faire ses tâches ménagères parce qu'il faut les faire, mais en se distanciant affectivement de ses enfants, en fait. C'est-à-dire que on a des parents, malheureusement, qui ne ressentent plus d'affection pour leurs enfants. Parfois, leurs enfants, c'est un peu comme des éléments qui vont les tirer vers le bas. Et parfois, ils ont juste envie de partir, d'être dans une bulle et de plus être là, quoi. Mmh. Donc, vraiment, là, il faut vraiment consulter quand on est dans ce cadre-là, avoir de l'aide extérieure, avoir de l'aide de personnes qui les comprennent, parce que ça peut être extrêmement... On est encore très culpabilisant sur les personnes qui vivent un burn-out, notamment un burn-out parental, parce que peut-être qu'elle ne travaille pas. Et alors pourquoi tu te plains? Pourquoi tu fais un burn-out? Tu n'as qu'un enfant, pourquoi tu fais un burn-out? Moi, je m'en suis sortie. La société est encore très difficile avec ces personnes-là. Et donc, avoir une parole très bienveillante, comprendre, même si les parents peuvent avoir parfois des propos durs, ils ont besoin d'être accompagnés, d'être compris dans cette phase-là. Et ensuite, les aider à mettre en place des leviers qui puissent les aider.
Et est-ce que d'ailleurs, vous formez des gens? Est-ce que vous essayez d'essayer de mettre en place des formations ou de faire passer ce message qu'il faut aider, qu'il ne faut pas faire culpabiliser les parents.
Oui, alors on a mis en place des formations justement pour l'aide au repérage, l'aide à l'action, comment je parle à quelqu'un qui est en train de faire un burn-out, parce que la personne elle peut réagir soit en déni total, et donc elle va dire qu'il n'y a aucun problème, que le problème vient d'ailleurs, soit en réaction de colère, et donc on va avoir tendance à aller voir la personne et pas aller la revoir en fait, elle va rejeter souvent l'aide. Donc on aide les personnes à savoir quoi dire, comment réagir, vers qui orienter, quels sont les acteurs, et ensuite à orienter vers notamment l'association pour une prise en charge beaucoup plus globale de la prise en charge.
Et ça, c'est au sein de votre association, oui, que vous mettez en place?
On met en place ces formations, que ce soit pour les entreprises, quand c'est du burn-out professionnel, mais on est en train de le développer pour les particuliers aussi.
Let's make tonight the weekend. I don't wanna wait. I don't wanna wait. I don't wanna wait. Got no reason not to celebrate. Baby, I just don't wanna wait. Swimming in the deep blue, got me thinking about you. I'm just trying to dive right in.
La nuit, c'est le moment sur Vibration où nous découvrons en version longue les meilleures interviews de la radio. C'est seulement ici que vous pouvez les découvrir.
Vous l'avez peut-être vu dans le jury de Danse avec les Stars sur TF1. On a interviewé François Alu, danseur étoile, qui a pas mal fait parler de lui, notamment pour avoir quitté l'Opéra de Paris pour se consacrer à ses propres projets, comme son spectacle Complètement Jeté, où il mêle humour, danse et théâtre. Originaire du Cher à l'origine et pas du tout de la capitale, il nous l'a confié, ses débuts dans la danse n'ont pas été des plus faciles.
Alors les débuts, ils ont été très mouvementés parce que donc j'ai dû quitter ma famille à laquelle je suis très attaché. J'avais 9 ans et demi quand j'ai quitté le berceau familial, mon petit berceau à Fussy dans la région centre, pour monter dans la capitale. Et c'est vrai que c'était un déchirement. Et en même temps, j'étais hyper exalté d'aller à l'aventure et de pouvoir aller apprendre mon nouveau métier, de devenir un artiste. Après, je savais pas qui m'attendait tout ça, tous ces rebondissements. Et puis c'est l'école de danse de l'Opéra de Paris, c'est une école qui est très très difficile, hein, parce qu'on commence le matin, en fait on a les cours de 8h à midi, et ensuite l'après-midi on travaille de 13h30 jusqu'à 18h30, 19h je crois, avec des cours de danse, des cours de musique, des cours d'histoire de la danse, des cours de folklore, enfin des cours de mime. C'était très varié. Et pour un enfant hyperactif comme moi, c'est vrai que à la fin des journées, je dormais bien.
C'est tôt quand même, non, 9 ans et demi pour quitter le nid familial?
Absolument, en fait, c'était très étrange parce que je me rappelle de moments très difficiles où j'appelais ma mère au téléphone, où je pleurais et elle me disait, mais si tu veux, tu peux rentrer. Je lui disais, non, je vais rester, alors que j'étais, il y a une part de moi qui était en souffrance totale. Mais il y avait un appel, je pourrais même pas l'expliquer, une sorte de foi en l'art quelque part, et qui me faisait tenir en fait. Et c'était ma voix et j'ai suivi. C'était quelque chose qui était plus fort que l'amour que j'avais pour mes parents et pour mon frère, alors que c'était la chose la plus grande auparavant. Donc c'était quelque chose d'un peu mystique comme ça. Mais aujourd'hui, je suis ravi parce qu'évidemment il y a eu des grands moments de souffrance, mais j'ai vécu des choses exceptionnelles aussi. C'est grâce à l'Opéra de Paris ensuite que j'ai pu aller danser dans le monde entier. On est allé au Japon, on est allé en Amérique, en Australie, en Amérique du Sud. J'ai fait des rencontres incroyables, dont celle avec Samuel Mures, qui est le co-auteur de ce spectacle complètement jeté, qui a changé ma vie en fait par la suite, quoi. Donc vraiment, c'était assez incroyable. Et puis l'Opéra de Paris, ça m'a permis aussi de rencontrer des corps de métier fabuleux, parce qu'à la fois il y avait des gens qui faisaient des décors, des costumes, des machinistes, des administrateurs, des producteurs, enfin vraiment ça fourmillait. Puis évidemment tous les danseurs qui sont incroyables, les chorégraphes, hein, les chefs d'orchestre, c'est très fourni, et c'est une chance inouïe que j'ai eue de pouvoir vivre tout ça, et aujourd'hui ça me rend très heureux.
Vous avez fait l'école de l'Opéra de Paris et vous avez intégré ensuite la compagnie de l'Opéra de Paris, c'est cela?
Exactement, je suis rentré dans la compagnie de l'Opéra de Paris à 16 ans et demi, exactement. C'est relativement tôt, parce que moi, j'ai pas passé mon bac, en fait. Il faut savoir que certains continuent les études par la suite. Moi, j'avais qu'une hâte, c'était arrêter l'école à tout prix pour pouvoir ne faire que de la danse, parce que déjà, quand j'étais à l'école de danse, je ne faisais que danser. Même les week-ends, ma mère me disait « T'as bien fait tes devoirs ?» Je dis « Oui, oui », alors que c'était pas vrai. Et puis parfois elle me disait, mais sors, va voir tes amis. Et je me dis, mais non, tu sais, je préfère être dans le studio de danse, quoi. Et vraiment, j'étais passionné, quoi. J'ai dévalisé vraiment YouTube. Je connaissais toutes les vidéos par cœur, même les documentaires. Je connaissais les répliques. Enfin, j'étais un obsessionnel en fait de danse, quoi. Vraiment, j'étais happé par ça. Et j'avais un besoin immense de me dépenser, mais surtout de danser. Faut savoir que dans les supermarchés, quand je faisais les courses avec mes parents, même plus jeunes, dans les allées entre les haricots et les petits pois, je faisais des tours en l'air, des pirouettes, avec mes parents qui me disaient « arrête, s'il te plaît, arrête ».
De la danse, mais aussi du cinéma et de la télévision avec Danse avec les Stars, quel est l'exercice que vous préférez?
Mais je crois que ce qui me plaît fondamentalement, en fait, c'est d'incarner des personnages et de raconter des histoires, de créer. En fait, plus globalement, c'est d'être dans des instants de création intense. Des moments où je suis en collaboration et où je vais être, par exemple, je pense à Samuel Mures, quand on est tous les deux et qu'on est en train d'écrire ensemble et qu'on rigole ou qu'on se dit, ah tiens, j'ai une super idée, il va se passer ça. Enfin, c'est le fait d'alimenter la créativité par quelque chose. En l'occurrence, au début, c'était la danse principalement, mais comme vous le disiez, j'ai eu la chance de pouvoir jouer un petit rôle au cinéma pour Andrea Bescon et Éric Métayer dans leur futur film qui, j'espère, sortira prochainement. Et puis j'ai moi-même, en fait, pendant le confinement, écrit deux films qui ont été diffusés ensuite sur Culture Box, un avec Kamel Menour qui est un galeriste à Paris, et un autre que j'ai vraiment produit de A à Z, qui s'appelait L'Échappée et La Source. Et j'ai adoré, en fait, le côté narratif, la réalisation, le fait de m'intéresser à l'image, aux couleurs, aux lumières, aux axes. Enfin, en fait, c'est le fait de pouvoir plonger un spectateur ou un téléspectateur dans un autre univers qu'une routine quotidienne. En fait, ça, c'est vraiment mon objectif. Et je crois que, en fait, c'est vraiment lié à mon hypersensibilité. Au début, c'était assez pathologique. C'est-à-dire qu'en cours, en scolarité, je posais des questions qui n'avaient pour tout le monde absolument rien à voir, et tout le monde me disait, mais il est idiot, mais il est débile, mais il est bizarre. J'avais un peu ce côté-là, et pendant longtemps ça m'a peiné, et suite à une longue thérapie de 7 ans avec une psychologue, et ben j'ai compris déjà d'où ça venait, cette hypersensibilité, et les pouvoirs, entre guillemets, les pouvoirs et les faiblesses que ça a apporté. Et je me suis dit, vraiment, voilà, il faut essayer d'en faire bon usage. Et en fait, le pouvoir que ça apporte, c'est qu'on a une limite qui est hyper poreuse, en fait, entre le monde de l'inconscient et le monde du conscient. Et donc, les informations passent très, très vite, très rapidement. Et il y a des choses complètement incongrues qui sortent. Mais justement, quand on est en scolarité, ou si je travaille dans un bureau, dans une banque, par exemple, et que je faisais le type de réflexion que je fais, je pense que je serais rapidement renvoyé. Mais en revanche, en tant qu'artiste et en tant que créateur, je pense que justement, c'est ce qu'on vient voir, parce que finalement, quand on va au théâtre, c'est un endroit où il peut se passer tout et n'importe quoi. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est des choses qui n'ont pas lieu normalement dans la vie de tous les jours, ou des scènes qui sont un peu étranges ou dérangeantes. Et là, on les met justement en exergue sur la scène. Et ça me plaît beaucoup, parce que les personnes dont je fais partie aussi, hein, en tant que spectateur, on ressort et on est bouleversé, on se sent vibrant. Et je pense que c'est ça le propre de la vie, en fait, c'est d'avoir des émotions aussi très fortes. Et j'aime être un procurateur d'émotions, voilà.
Est-ce que cela vous a apporté quelque chose de participer à Danse avec les Stars?
Ah, bah absolument, parce qu'en fait, Danse avec les Stars, donc c'était les premiers moments où moi, j'avais déjà fait un petit peu de télé, quelques interviews, mais là, c'est vrai que c'est quand même des millions de téléspectateurs qui nous regardent chaque soir. C'était pas forcément ce même public, en fait, qui venait voir les spectacles dans lesquels je jouais, donc je suis content d'être allé à la rencontre de nouvelles personnes, de nouveaux spectateurs, et c'est vrai que ça m'a beaucoup touché quand j'ai vu, je me rappelle, il y avait trois jeunes filles qui sont venues à Paris après mon spectacle au Trianon, et elles m'ont dit, bah écoute, on n'était jamais allé voir de spectacle comme ça, et ça nous a vraiment beaucoup plu, ça nous a séduit, et merci, en fait, parce que si t'étais pas venu sur Danse avec les Stars, on serait pas venu non plus, et je suis content, parce que c'était un peu le moteur de pourquoi j'ai fait cette émission. Je me suis dit, ce serait génial d'aller à la rencontre d'un nouveau public. Et puis, c'est vrai que, pour être très honnête, j'étais pas forcément très épanoui juste avant de faire Danse avec les Stars. C'était un moment un petit peu compliqué pour moi, pour plein de raisons. Et j'avais lu dans un livre une phrase que j'avais adorée, qui disait « Pour être là où tu n'es pas, il faut emprunter la voie dans laquelle tu n'es pas ». Et auparavant, jamais, je pense que si on m'avait proposé de faire Danse avec les Stars quand j'étais pleinement à l'opéra, à 100% là-dedans, je pense que j'aurais décliné la proposition, parce que j'étais, encore une fois, obsessionnel et peut-être trop enfermé dans une vision. Et là, je suis content de m'être ouvert, parce que ça m'a ouvert les yeux, ça m'a fait rencontrer de très belles personnes. J'ai pu apprendre, enfin, et travailler sur ce nouvel exercice qui est être juré, mais à la télé. J'avais déjà fait juré à l'Opéra de Paris en tant que membre pour le concours interne et concours externe. Mais là, c'est vrai que c'est pas pareil, parce qu'on doit faire des commentaires relativement concis. Il y a quand même du jeu, de la tension et tout ça. Donc c'était un bel exercice, et puis très intéressant de voir tous ces corps de métier aussi qui s'activent dans la télévision. Quoi, le premier assistant, le technicien, les danseurs, le fait d'enregistrer, d'empexer des choses avant, de les diffuser après, de voir la gestion du public en direct aussi. Enfin, c'est vraiment très très intéressant.
Parlez-nous de votre spectacle Complètement Jeté, donc votre premier seul en scène qui mélange plein de styles différents apparemment.
Alors c'est assez marrant, parce que quand mon attaché de presse est venu le voir pour la première fois, il a dit mais en fait ça n'existe pas, c'est du dance-up en référence au stand-up et au stand-up dansé finalement. Et je crois que c'est un petit peu ça. En fait c'est un moment qui est assez intense. Je crois que ça représente un peu ma vision du monde finalement, c'est-à-dire c'est très compact, c'est très dense, avec un E et avec un A. Il y a 15 variations de danse, donc il y a du classique, il y a du contemporain, il y a un solo de hip-hop aussi où pendant une minute je me déchaîne et après je suis épuisé. C'est un moment que les gens aiment beaucoup, donc on le conserve dans le spectacle. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que dans ce spectacle, il y a aussi plein de personnages. C'est plein de personnages qu'il y a dans ma tête, réellement, des voix que j'entends, un peu comme Jeanne d'Arc, hommage à Bourges, notre région centre. Et donc voilà. Et en fait, c'est un personnage que j'incarne, où il y a un peu de moi quand même dedans, même pas mal de moi. Et toutes ces voix, en fait, elles viennent bouleverser, et elles viennent percuter comme ça le personnage. Alors évidemment, c'est très humoristique, mais il y a aussi des moments où de tension, en fait, où j'ai peur, où je suis en colère, où il y a de la rébellion. Et en fait, ce spectacle, on l'a vraiment créé avec Samuel Mures pour une raison. Enfin, moi, c'était essentiel pour moi. Je me suis dit, j'ai envie de me détacher du quand dira-t-on. Étant danseur, c'est vraiment le propre de notre métier, c'est d'être regardé en permanence. Donc on se regarde aussi, nous, beaucoup dans le miroir. On se dit, est-ce que ma jambe elle a assez tendue, est-ce que mon pied a assez tendu, est-ce que mes cheveux, moi j'en ai plus, mais est-ce que mes cheveux sont bien coiffés, est-ce que j'ai un bon teint, est-ce que si. En fait, c'est un métier d'image, et je me suis dit, mais c'est terrible, parce que ce métier d'image, en fait, il impacte beaucoup sur la vie de tous les jours, parce qu'en fait, on se regarde énormément le nombril, et on est très sur nous. Et on est très vulnérable, en fait, à ce que va penser l'autre. Et je me suis dit, vraiment, j'aimerais, et puis je voyais autour de moi, dans mon entourage, pas que dans les danseurs, hein, mais dans d'autres êtres humains dont je suis proche, qui étaient très sensibles. En fait, on est tous assez sensibles à ce que pensent les gens de nous. Et je me suis dit, mais libérons-nous de tout ça, libérons-nous de ces chaînes et de ces limites qu'on s'impose nous-mêmes. Je serai jamais capable de faire ci, ça sera pas possible de faire ça. Non, mais ça, j'ai pas le droit. Et en fait, j'avais envie vraiment de me détacher de ces chaînes-là et de partager ça au plus grand nombre. Je voulais que ce spectacle soit vraiment universel. Parce que c'est trop dommage de passer à côté de sa vie parfois. Et typiquement, ne serait-ce que l'exercice du seul en scène, moi j'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça, d'être en scène, de parler, de raconter l'histoire, mais je me disais non, mais de toute façon toi t'es trop bête, t'es trop stupide, tu peux pas apprendre un texte, à l'école t'y arrivais pas, et puis tu sais pas bien écrire, et puis voilà. Et en fait je me suis lancé ce challenge, c'est ça a lieu pendant le confinement en fait, vraiment avec Samuel, c'est là où on a commencé à écrire chacun de son côté, puis ensemble, et en fait on a vraiment fait ce spectacle à deux, et c'est là où est né en fait ce tissu de paradoxe en fait qui nous compose, et de montrer que c'est ok finalement d'avoir toutes ces différences, et que c'est même intéressant parce que ce qui nous différencie de la norme, de la doxa, et ben c'est ça qui va faire qu'on est unique, et comme on dit, ce qui est unique est cher. Et donc voilà, moi j'ai envie de prôner cette différence et de prôner cette liberté au maximum, et donc c'est comme ça qu'est né ce spectacle qui est à la fois épuisant, parce que je me donne comme pas possible, à la fin je suis épuisé. On avait capté avec un capteur cardiaque qui faisait aussi le nombre de calories. Je brûle 1500 calories pendant le spectacle, donc c'est une heure et demie où ça n'arrête pas, où je danse, où je parle, où c'est vraiment très intense. Et en même temps j'adore parce qu'il y a une vraie communion avec le public. C'est ce qui me manquait en fait auparavant, c'est qu'avant je dansais, mais j'avais envie d'une proximité encore plus forte. Pour moi, c'est hyper important le lien avec le public. Et je me suis dit, mais comment je peux faire? Sachant que j'ai pas le droit de parler. Pour un moment, on s'est dit, mais tu sais quoi, on va le prendre, ce droit de parler. Et donc maintenant, je peux directement m'adresser au spectateur. Et il y a un lien qui est très fort. Et puis, il y a des choses qui se passent dans le spectacle. Parfois, les gens parlent, je peux reprendre ce qu'ils disent sur leur rire. Enfin, il y a une vraie interaction, une vraie connexion. Et c'est pas juste l'interprète sur la scène et les gens qui regardent. C'est quelque chose où il y a une vraie communion. Et ça me plaît énormément.
Merci François Allu, danseur étoile.
Más alto es el poder que te han dado desde el cielo. No, 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 no. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo truenos si no estás. Y se me aparecen mil planetas. De repente esto es una alucinación. Quiero ver tu otra mitad, alejarme de esta ciudad y contagiarme de tu forma de pensar. Miro al cielo al recordar, me doy cuenta otra vez más que no hay momento que pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal, cansado de esperar tus billetes para amarte. No quiero ver nada posible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy. ¿Qué me has hecho? Estoy, no vas de frente, es lo de siempre. Y de repente estoy perdiendo la razón. 100 complejos sin sentido me arrebatan tus latidos y tu voz, y ya no puedo. Que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste uno más. Este veneno y oigo truenos si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Todo es un desastre, esto es una obsesión. No me sirven tus pocas señales, ya nada es como antes. Me olvido de quién soy y dónde estás. La verdad es que ya van mil noches malditas sin tu abrazo.
es algo raro, estoy viciado a tu amor, a tu amor, a tu amor, amor, no, 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 no. Quiero verte, 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 que se acabe ya.
De faire de la radio chaque vendredi, Vibration vous ouvre ses portes.
Salut Alban, salut Théo.
Alban et Théo vous accueillent dans l'équipe et vous donnent la parole.
Bonjour à tous.
Bonjour. Entre 9h et 10h, devenez le pote du vendredi et participez à l'émission Debout tout le monde sur Vibration.
Allez, debout tout le monde.
Pour participer à l'émission, inscrivez-vous dès maintenant sur vibration.fr.
Oh, take it, take it. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un plus un fond de. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Oh. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. I love, I love, I love, I love, I love you. Oh. Baby, I love, I love, I love, I love. Casser toutes mes montres, peu importe ce que ça va me coûter. Oh. Quand j'aime, le temps doit pas s'écouler. Oh. Et depuis que toi c'est moi, j'ai tout oublié du passé. Oh ma chérie, dis-moi où tu t'étais caché. Oh. Oh pourquoi j'ai mal, mal, pourquoi je suis blessé. Oh. J'ai demandé à Dieu de nous séparer, mais il ne veut pas m'exaucer. Oh. Oh c'est lui qui sait. Et son plan est déjà calé. Donc si c'est pour toi, c'est avec la joie que je vais pleurer. Et si je te dis que je t'aime, tu dois me répondre que tu m'aimes. C'est tellement simple, un peu comme un puissant fondeur. Et si tu me dis que tu m'aimes, je te répondrai que je t'aime. Je prends ta main, je ferme les yeux et je me sens mieux. Oh baby, I love, I love, I love, I love, I love. Faut frappe une seconde, l'amour lui ne peut pas finir. Laisse-moi guérir tous tes bobos ma chérie. Je ne veux plus souffrir, souffrance même cherche à te fuir. Écoute ma poitrine, mon cœur a des choses à te dire. Allez donne tes larmes, redonne tes cris. Tout ce qu'ils t'ont fait on va oublier. Prends-moi cadeau, fais-moi oublier mon gourmand. Garde-le pour toi. Et si le ciel me rappelle, c'est devant toi que je veux faire.